RTVFM, une femme, un homme, un territoire.
Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'Une femme, un homme, un territoire de l'année 2022. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une commune, mais vraiment d'un territoire, à part entière, protégé, le parc naturel régional du Mont Ventoux. Pour qu'il n'ait plus de secret pour nous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ken Reyna, qui est le directeur du parc. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc le parc du Mont Ventoux, on en entend énormément parler depuis quelques mois, quelques années. Est-ce que vous pouvez nous redire une petite carte d'identité, nous parler un peu du parc pour qu'on soit bien clair sur qu'est-ce que le parc naturel du Mont Ventoux ?
Oui, bien sûr. Le parc, c'est déjà un joyau qui est posé en son centre. Hein. C'est notre montagne mythique, notre repère à tous qui est notre beau Ventoux. Et autour de ce massif-là, 35 communes, on fait le choix de s'engager dans la voie d'un développement raisonnable, soutenable, durable. Enfin, on essaie pour préserver en effet ce qui fait la richesse et la beauté de notre pays. Alors voilà, c'est globalement 80 000 hectares, 80 000 habitants, répartis sur sa frange ouest, une ligne qui va de Vaison-la-Romaine à Pernay-Fontaine. Mmh. Voilà, et qui coupe les dentelles de Montmirail en deux, avec en son centre Carpentras, et puis qui s'étend jusqu'à l'est sur le plateau de Sceaux et le plateau d'Albion vauclusien. Voilà, c'est vraiment la vallée du Toulourenc, le plateau de Sceaux, les monts de Vaucluse, le comté avenessin, le bassin de Vaison, qui se retrouvent, qui se rassemblent autour du Ventoux.
Donc quand même des paysages qui sont assez diversifiés, il n'y a pas que le Mont Ventoux, c'est quand même assez large.
Ah, c'est très bien ce que vous dites, parce que l'une de nos particularités, c'est qu'en fait, notre territoire, notre parc du Ventoux, votre parc du Ventoux en fait aussi, hein, c'est surtout ça, il est fait d'une très grande richesse et d'une très grande diversité. Le plateau de Sceaux, comme je vous disais, c'est un territoire plus rural, très agricole, où la lavande règne finalement avec l'élevage. Et c'est très différent, bien évidemment, du comté avenessin, en altitude, en paysage, en nature, en culture, en homme, enfin en tout, quoi. Le comté avenessin qui est plutôt tourné, lui, vers la vigne, l'olivier, la cerise, en gros l'arboriculture et la vigne. Voilà, et où on voit bien que la densité de population n'est pas non plus la même, voilà. Mais vraiment, ce qu'on partage, hein, c'est vraiment ça, notre dénominateur commun, c'est ce sommet blanchâtre, cette tour qui signe l'horizon, et puis... Je crois que j'utiliserai beaucoup ce terme hein, tout au long de cette rencontre, mais le Ventoux, c'est notre père. Hein. On se lève le matin, on le voit, on rentre la nuit, on le voit scintiller. Voilà, on a tous un petit bout du Ventoux qui nous appartient aussi, finalement, hein, qui
nous accompagne chaque jour. Et puis, effectivement, c'est toujours un bonheur de le voir tout au long de l'année. C'est aussi très attractif. On parlera du tourisme tout à l'heure. C'est un endroit qui est quand même très attractif sur le territoire et passionnant.
Il est attractif parce qu'il est beau.
Tout à fait.
Est beau, il est riche, il est préservé, il est diversifié. Enfin, on pourrait enchaîner toute une série de superlatifs de ce genre. Mais quand on y habite, moi je suis natif du Ventoux, on a l'habitude de le voir. Parfois, on ne s'aperçoit plus, on ne s'en rend plus compte. Que c'est vraiment exceptionnel.
Oui, parce que quand on a l'habitude d'être quelque part, on ne se rend plus compte. Mais des fois, quand on part en vacances et qu'on revient,
c'est ça.
Il y a ce petit moment retrouvé mon chez-moi. Oui.
Quand on est sur l'autoroute ou dans le train, qu'on voit le Ventoux, on se dit, ouais, c'est bien,
ça y est,
on y retourne, on revient au pays. Ouais.
Et alors, depuis combien de temps ce territoire est labellisé parc ? Je sais que ça a été un gros travail. En quelques mots, hein, mais comment ça s'est passé pour en arriver là ?
Alors, c'est un jeune parc, hein, puisque le parc du Ventoux a été classé par décret en juillet 2020. Donc voilà,
c'est
ça fait
neuf.
À peine plus d'un an et demi, c'est tout neuf. Mais comme tous les parcs, c'est une longue procédure, une vraie démarche de longue haleine. Il n'y a aucun parc qui se crée en un an, deux ans, trois ans. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible parce que c'est vraiment un projet de territoire. Alors, quand on a ce terme technocratique, des fois, on dit « oui, ça veut dire quoi ?» Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire « c'est un projet qui rassemble les hommes et les femmes d'un territoire, d'une région, et qui s'unissent pour se donner une direction, un cap et un cadre pour y parvenir, et les moyens aussi pour réussir. » Et c'est vraiment ça, le parc du Ventoux. Donc forcément, pour se rassembler, pour s'unir, pour décider ensemble, parce que c'est aussi la particularité d'un parc, c'est qu'on décide ensemble. On a construit ensemble le projet. Les élus, les associations, les entreprises, les administrations, les intercommunalités, les communes, enfin,
Énormément de parties prenantes dans ce travail-là.
Et c'est ce qui fait la richesse, en fait, et ce qui fait aussi l'ADN, moi, je pense, des parcs, c'est qu'on arrive à décider ensemble voilà, de quel cap on se donne. Et c'est pas courant.
C'est pas une mince affaire.
Et forcément, ça prend plus de temps. Voilà. Et puis, au Ventoux, c'est quand même toujours un petit peu différent d'ailleurs. Et je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le Ventoux nous rassemble, mais aussi parfois il nous sépare, hein, parce que finalement, le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est pas pareil. C'est, voilà, il y a des différences qui sont parfois marquées. Et comment on fait converger tout ça, quoi ? C'est bien beau de se dire, le Ventoux, c'est notre repère, c'est notre emblème, c'est notre truc commun, quoi, finalement. Mais ça fait pas tout, quoi. Il faut aussi, après, arriver à mettre son destin sur la table, quoi, ensemble. Et c'est toujours un peu difficile, mais je pense qu'on y est arrivé. Parce qu'il y a eu des volontés politiques fortes, parce qu'il y a eu des volontés économiques fortes, parce qu'il y a eu des volontés associatives fortes. Voilà, nous, moi je représente finalement les serviteurs, les agents du parc. Hein. Nous, on était là pour écrire, accompagner, guider.
Relier tout ça, c'est ça, la mission du parc ?
Alors, il y a parc et parc dans ce que vous dites. Il y a parc au sens la structure que l'on est, la structure publique que l'on est, parc le territoire. Le boulot du parc structure, syndicat mixte de gestion du parc, qui est une collectivité, en fait, un établissement public qui est présidé et dirigé par des élus et qui regroupe des agents en son sein. Notre boulot à nous, et le travail des élus aussi, là, je pense, c'est d'arriver à se rassembler, à animer ce territoire-là. Voilà. À faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent échanger et, ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, prendre la route pour le destin commun. Quoi.
Voilà, qui est la protection de ce lieu et la valorisation aussi pour créer de l'attractivité.
Ouais. Il ne faut pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'on a un joyau entre les mains, ok, on protège ce petit bijou, mais le mettre sous cloche, regarde, mais on n'en fera pas grand-chose. Donc ce n'est vraiment pas ça, un parc naturel régional, c'est plutôt de se dire, on a un élément patrimonial très fort, qui est ce massif et tout ce qu'il y a autour, parce que nos villes et villages regorgent de patrimoine.
Bien sûr.
Et on fait en sorte que l'on puisse vivre. Enfin, c'est important qu'il y ait des enfants dans les écoles, qu'il y ait des gens qui travaillent, qu'il y ait des économies locales, etc. Mais un parc, ça a un positionnement un peu différent des autres formes de développement. Donc c'est pour ça que, bon, je pense qu'on y reviendra un peu tout à l'heure, mais sur des positionnements un peu forts, on donne des directions. Et le « on », il est collectif, toujours. Souvent, on m'entendrait dire « on », mais il est toujours collectif.
C'est important. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'on a aussi entendu quand voilà, il y avait cette question d'être classé parc, que ça pouvait empêcher de faire des choses. Qu'est-ce que ça apporte, restons positifs, qu'est-ce que ça apporte aux habitants et aux entreprises locales d'avoir ce territoire classé parc naturel régional ?
Ah, c'est une formidable énergie. Se dire, on est tous ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Enfin, quand je vous dis Vaison, Pernefontaine, Carpentras, Brandt, j'aurais pas dû me lancer dans une énumération.
Plusieurs mondes.
Vous imaginez, c'est plusieurs mondes et c'est plusieurs pépites que l'on a entre les mains. Voilà, se dire, notre emblème, c'est le parc. C'est déjà une marque en soi. Voilà, le Ventoux est une marque et dire parc et Ventoux en même temps, c'est une marque supplémentaire. Donc, c'est vraiment de l'énergie. Pour, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, travailler ensemble, préserver nos patrimoines, développer certaines formes d'économie, voilà, préserver nos paysages, faire en sorte que demain ce soit toujours aussi beau, aussi riche, aussi... Voilà, c'est ça l'apport. Et puis on ne peut pas passer sous silence non plus. C'est vrai que quand on parle de parc naturel régional, et très sincèrement je le comprends et je l'ai toujours dit, on a quand même une dénomination qui peut interroger. On est, comme je vous disais, moi je suis né, j'ai vécu ici, dans un milieu rural, je comprends aussi qu'on s'interroge quand on dit parc naturel régional, bien évidemment. Mais c'est tout sauf un parc fermé. C'est pas une mise sous cloche, comme on le disait tout à l'heure, bien au contraire. Les champignons continuent de se ramasser. Puis en plus, vous saviez, comme je suis amateur de champignons... Donc,
c'est la bonne période.
Voilà, la chasse continue de s'exercer. Enfin, les activités rurales traditionnelles qui sont caractéristiques de notre territoire, et c'est le cas chez nous, hein, je n'en ai cité que deux, mais il y en a plein d'autres, hein, elles continuent de s'exercer. Et heureusement, c'est ce qui fait la beauté et la richesse. Ça ne sert à rien de mettre... Enfin, on n'est pas dans un musée, quoi. Voilà.
Non. Et justement, puisqu'on n'est pas dans un musée, quoique ça attire des touristes aussi, qu'est-ce que ça apporte aux touristes de venir là et de savoir que c'est un lieu qui a été classé parc ?
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était l'image de marque, un peu, voilà, qui est reluisante. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on ne peut pas simplement dire qu'un parc, c'est naturel régional du Mont Ventoux, c'est plus beau, plus joli qu'ailleurs, quoi. Mais il faut aussi créer du fond, quoi, et faire en sorte que ça le reste. Ça veut dire que le parc, au sens territoire, c'est-à-dire que Dans le Parc du Ventoux, c'est 35 communes, la région, Provençal-Côte d'Azur, le département de Vaucluse, les intercommunalités concernées, les acteurs socio-économiques qui se sont engagés dans une voie. Et sur le tourisme, en l'occurrence, c'est se réunir, se rassembler. C'est ce qui est en cours. Hein, les offices de tourisme intercommunaux travaillent ensemble, créent une destination, on va dire, Ventoux un peu forte, rassemblée. Et le parc, lui, il apporte le petit plus. Le parc structure, lui, il apporte le petit plus sur les formes d'écotourisme. Écotourisme étant une forme de tourisme un peu différente qui s'appuie sur nos ressources locales, qu'elles soient naturelles, culturelles, paysagères, agricoles, etc. Voilà. Et on essaie de créer ensemble des produits touristiques, mais que nos visiteurs, quand ils repartent, ils se disent waouh. Ils se le disent déjà, mais waouh, c'est beau, et maintenant je sais pourquoi, et j'ai consommé Ventoux d'une manière un peu différente. Et je pense que c'est ça, la plus-value aussi. C'est pas simplement bénéficier d'un flux qui consomme et qui repart. Voilà.
C'est certain. Et j'ai vu que, justement, vous aviez, si on parle du GR, du Tour du Massif, qui a été deuxième d'une compétition. Alors, deuxième, certes.
Mais deuxième et premier.
Mais
deuxième,
premier avec le vote du public, si j'ai bien vu.
C'est bien ça, ouais.
C'était quoi? C'était mon GR préféré, c'est ça? C'était une...
Oui, c'est un concours national sur la randonnée pédestre, hein, autour des GR. Nous, c'était le GR Tour du Ventoux qui était en lice, avec promu déjà par les partenaires qui sont le comité départemental de randonnée pédestre, le département, Vaucluse Provence Attractivité, les offices de tourisme. Nous, enfin, voilà, parce que le Ventoux, c'est très certainement l'emblème du cyclisme sportif.
Mais il n'y a pas que ça.
Mais il n'y a pas que ça, voilà. En termes de pratique de sport de nature, et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, il y a aussi la randonnée. Et c'était l'occasion de promouvoir une destination, une pratique et une diversité de paysages dont on parlait tout à l'heure. Alors certes, on n'a pas gagné, mais on a été premier.
Premier avec le vote du public, c'est quand même...
C'est déjà pas mal.
Voilà. Vous faites un peu chauvin quand même. Qui est-ce qui a gagné, vous savez?
C'est le GR de Belle-Île, qui a gagné avec
le vote du jury.
Avec le vote du jury, voilà. Bon.
C'est pas grave.
Ça s'appelle coiffer sur le poteau, ça.
On pense quand même que c'est le premier. Eh bien, voilà, on a fait cette petite carte d'identité. Je pense que maintenant, on sait un peu plus ce que ça veut dire, le parc naturel régional du Mont Ventoux. On va faire une toute petite pause musicale et on se retrouve après avec les actualités.
écoutez l'émission Une femme, un homme, un territoire.
De retour dans le parc naturel régional du Mont Ventoux avec Ken Reyna, directeur donc de la structure parc. On a parlé un peu, on a fait la carte d'identité du PNR et on parlait notamment du tourisme et de la protection de la nature. Alors, on se rend bien compte que le Mont Ventoux et le territoire autour, on parlait de Sceaux et de ses lavandes, des choses comme ça, c'est des endroits qui attirent énormément de monde. Comment on arrive à gérer cet équilibre entre attraction territoriale pour les touristes et préservation de l'environnement ?
Ah oui, c'est une vraie question. et vous l'avez bien dit, c'est des questions de gestion et d'équilibre. Je vais prendre peut-être un exemple, en fait, tout simple, qui est celui du sommet du Ventoux. En fait, où vous le connaissez, hein, tout le monde le connaît, une route départementale qui accède à un lieu mythique. Vous êtes au milieu d'espaces naturels protégés, qui sont quand même assez hostiles. On est dans un pierrier, un tas de cailloux.
Avec beau, un petit peu de vent, des fois.
Avec des conditions météo assez complexes. Et des espaces pour l'accueil du public qui sont assez limités. Une esplanade, voilà, des lieux d'accueil, et il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Sauf qu'en 6 mois, ce lieu-là accueille plus de 700 000 visiteurs. On fait comment ? Voilà, et c'est la vraie question, hein. On fait comment ?
Et puis des voitures, des piétons, des vélos, en plus, voilà.
Grande cacophonie,
c'est
voilà.
Ça.
Comment fait-on ? Là, en fait, c'est une initiative qui a mobilisé en premier lieu le département de Vaucluse, qui est le principal opérateur, hein, du sommet Ventoux, et puisqu'on est sur une route départementale, beaucoup de propriétés départementales, et le parc, pour en fait déjà savoir comment intervenir, comment positionner les différents éléments, comment voilà, les véhicules se garent où, comment le visiteur déambule, ce qui a donné lieu à on va dire deux saisons de travaux autour du sommet. Un projet qui est ambitieux, une première phase qui est ambitieuse, voilà, pour essayer finalement de faire en sorte que, et c'est vraiment l'objectif qui est fixé, les visiteurs, lorsqu'ils viennent au sommet du Ventoux, ils puissent repartir avec une vraie expérience de qualité et que finalement, cette image-là qu'ils ont du territoire, elle soit aussi bénéfique pour toutes les communes autour. Je m'explique, le Ventoux, c'est encore une fois un élément qu'on voit de loin, c'est une destination à part entière. Vous êtes en Camargue, vous êtes dans le Gard, etc. Et vous venez au Ventoux. C'est un lieu qui se voit, il vous attire, vous êtes à une heure ou deux heures de route, vous le faites.
On le disait, hein, quand on passe en train, on le
voilà.
Voit.
Donc ça veut dire quoi, durant votre étape estivale, par exemple, vous venez, ça se vit de loin, ça se, voilà, vous le ressentez, une ascension, vous arriviez, j'emploie là le temps passé, vous arriviez dans ce fameux mélange, cette cacophonie, et là c'est pas digne d'un site à la hauteur du Ventoux et de sa renommée internationale. Donc il fallait un peu apaiser tout cela, et c'est vraiment un objectif qu'on a fixé dans le parc avec ces termes, apaiser les sites naturels. Il faut, voilà, on se pose, on regarde, on respire, la vue elle est magnifique, et on essaie de repousser un petit peu des éléments un peu étrangers, motorisés, etc. Voilà, on essaie de les cacher comme on peut. Alors, on se met devant tout, c'est difficile, hein, voilà, sans doute, mais essayer d'apaiser tout cela et que l'on ait une vraie expérience vécue. Voilà. Et c'est un vrai défi. Hein. Là, je pense que le département a mis la barre très haut sur cette opération-là, et on ambitionne de redéployer ce type d'initiative dans d'autres secteurs. Et par exemple, c'est les Gorges du Toulourain qui également, hein, où l'on est sur un tout petit site absolument magnifique, hein, mais qui subit malheureusement une forte pression touristique. Il ne faut pas beaucoup de monde, finalement, pour que les choses se dégradent. Mais vous mettez 18-20 000 personnes en 2 mois de temps.
Et c'est quand même pas mal.
C'est beaucoup. Voilà. L'expérience vécue, vous imaginez, pour les gens qui viennent. Et finalement, quand ils repartent de chez nous, ils doivent se poser des questions sur comment gèrent-ils leur Ventoux, quoi. Voilà.
Oui, et puis pour les locaux, c'est vrai qu'une fois qu'on a un peu galéré pour se garer ou qu'on trouve que c'est pas qu'il y a trop de monde, on n'a plus envie d'y aller.
On n'a plus envie d'y aller. Donc voilà, c'est encore les opérateurs que sont les communes, le département, les intercommunalités, l'État, etc., qui se mettent autour de la table. Et le parc, lui, on emploie le mot d'animateur tout à l'heure. Hein. C'est celui qui anime, qui fait « Allez, on se pose les questions ensemble, on avance. » Et puis après, chacun prend sa responsabilité des actions qu'il a apportées dans le respect de ses compétences propres, quoi. Voilà, telle structure est compétente pour tel projet, c'est à elle de le faire, c'est pas une autre, quoi. Voilà.
Et vous développez des programmes aussi, des financements, des choses comme ça.
Oui,
vous avez un programme Espace Valéen, je crois que ça...
Alors, on a plusieurs dispositifs financiers qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est souvent de l'argent de l'Europe, de l'État, de la région, du département, qui pour réaliser l'action, tout bêtement. Alors c'est pas de l'argent que pour le parc, pour le syndicat du parc, c'est l'argent pour toutes celles et ceux qui souhaitent porter des projets sur la volée gestion des flux. En effet, c'est un programme qui s'appelle Espace Valéen, qui a pour vocation de déployer l'écotourisme et gérer les flux touristiques. C'est pas un hasard, quoi. Voilà, donc il semblait assez logique que nous, on se positionne sur ce créneau-là et qu'on développe vraiment cette thématique-là. Après, charge à tous les porteurs de projets, le parc, le département, les communes, les intercommunalités, etc., les associations, etc., de pouvoir mener à bien leurs actions. Et nous, notre boulot, c'est aussi ça, quoi. Alors, le mot qui m'est venu en tête, c'est de leur faciliter la vie. Mmh. Voilà, faire en sorte que leurs projets, leurs ambitions puissent se réaliser et qu'on le fasse ensemble.
Oui, c'est vrai qu'on... sympa, quoi. On a vu que ça avait déjà commencé puisque le sommet du Mont Ventoux a été un peu réhabilité, ouais, rénové. Ouais. Voilà, il y a des étapes, en tout cas.
Oui, mais après, c'est, vous savez, toutes ces choses-là, ça prend toujours du temps.
Bien sûr.
On n'est pas sur des... Nous ne sommes pas sur des rythmes comme on peut l'avoir dans le domaine privé. Hein. Vous avez votre entreprise, vous décidez quelque chose, le lendemain, ça peut être réalisé sur... dès que vous êtes très, très nombreux autour de la table, des profils très différents, on parlait du public, du privé, de l'associatif, vous cherchez des financements, il y a des règles à suivre. Voilà.
Et puis le temps d'intégrer aussi les choses, que ça soit communiqué aux habitants pour que voilà, ça s'intègre et que justement ça soit aussi accepté.
Oui, la place des habitants est importante, vous avez raison de le souligner. Comme on le disait en début d'émission, on ne fait pas un parc pour soi-même, on fait aussi pour les gens qui y habitent. Mmh. C'est surtout ça, quoi. Et je pense que c'est un peu la clé de réussite aussi. C'est de se dire, si ces territoires qui sont reconnus parcs sont des territoires exceptionnels, c'est bien parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont bâti ce caractère exceptionnel. Donc c'est aussi pour eux qu'il faut le faire. Ouais.
Et des gens aussi qui accueillent les touristes, qui travaillent. Vous avez une labellisation qui est la marque Valeur Parc. En quoi ça consiste justement cette labellisation ?
Alors la marque Valeur Parc, c'est une marque qui est déployée au niveau national par la Fédération des Parcs, avec une propriété qui est liée à l'État, qui vise à reconnaître des produits ou services un peu particuliers, un peu le plus-plus, un peu la qualité. Tout le monde ne peut pas y prétendre, mais ça peut être dans le domaine touristique, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'accueil du public, de l'éducation, etc. Voilà, la marque Valeur Parc se décline dans toute une série de domaines. Alors nous, on est un jeune parc, on débute. D'autres parcs ont bien de l'avance sur nous, mais pour l'instant, on débute dans le domaine touristique, sur l'hébergement et l'accueil. On a des candidats, voilà, ça veut dire qu'il y a aussi des...
Il y a une charte, ça veut dire qu'ils doivent signer une charte
Même un référentiel, en fait. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à des critères précis. Vous y répondez, vous n'y répondez pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit plus. Et ce n'est pas uniquement, en plus, une marque, on va dire, à critères environnemental ou écologique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une marque économique qui intègre une dimension économique, sociale et environnementale. On est vraiment sur les trois domaines, sur est-ce que vous connaissez votre territoire, oui, non, je vous le résume, hein, mais ça va plus loin que ça, mais vous connaissez votre territoire, oui, non, vous avez un attachement, vous le valorisez comment, quelle relation avez-vous avec vos employés, comment pratiquez-vous, et d'un point de vue environnemental, énergie, produits...
Développement durable au sens large, voilà, du terme.
C'est bien ça.
Ce n'est pas uniquement l'environnement.
Non, ça serait trop facile.
Voilà, oui. Ouais.
Et ça serait très réducteur.
Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, pour le consommateur, le client, ça lui apporte aussi quelque chose où il est sûr d'avoir un service qui est de qualité et représentatif du territoire.
Oui, complet. C'est-à-dire un service complet qui intègre les trois piliers dont on parlait et qui est vraiment un produit lié au Ventoux, en l'occurrence. Voilà. Si vous allez avec un accompagnateur ou un hébergement qui est marqué parc, si vous consommez un vin marqué parc, du miel, de l'huile d'olive, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus. Voilà.
Et je sais qu'aussi derrière, vous accompagnez les entreprises qui sont dans cette marque Valeur Parc.
Oui,
les aidez aussi à développer, à remplir les critères.
Alors ça c'est le premier travail, en effet. Les 9 parcs de la région sont réunis en association. Et sur ce volet-là, notamment sur le volet tourisme, il y a une mutualisation qui a été faite pour que les parcs fédérer les initiatives et rationaliser les coûts aussi. Il faut dire les choses comme
bien
elles
sûr.
Sont, quoi. Et puissent accompagner les entreprises, nous aussi également, les charges d'émission font ce travail-là, mais on va encore plus loin, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait des programmes financiers, c'est aussi permettre à ce que ces gens-là, mais les autres aussi, voilà, c'est pas exclusif, puissent réaliser leurs projets dans le domaine de l'artisanat local, de l'artisanat d'art, du tourisme, de l'agriculture, des nouvelles énergies, enfin, des services, des maisons de producteurs. Enfin, le domaine est large, c'est au travers du programme européen Leader, là, justement, que l'on intervient. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir une transparence totale dans la gestion de ces crédits, puisque c'est un groupe d'action locale qui, lui, décide à qui sont attribués ces crédits ou pas. Et l'idée, c'est vraiment que l'on ait... ce qu'on appelle, alors, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un peu ringard, mais du développement local, quoi. C'est-à-dire une forme de développement qui s'appuie sur les ressources locales, qui est partagée, qui dont on débat, quoi.
C'est ringard, le développement local, pourquoi ?
Je sais pas, mais je crois qu'il y a de nouveaux mots maintenant pour de nouvelles appellations, quoi.
Oui, mais après,
c'est pas ringard, je pense pas.
Au contraire, je pense que c'est en train de revenir.
Oui,
c'est pas plus mal.
On relocalise le développement.
C'est ça. Ouais. Et donc, vous en faites partie et vous êtes un des acteurs pour...
Oui, parmi faire... d'autres. Ouais.
Voilà. J'ai vu également qu'il y avait le retour des éco-gardes, puisque si on veut attirer des touristes, donner envie aux locaux de venir sur place, bah, c'est aussi important que voilà, la nature soit préservée. Quelles sont leurs missions ? Et c'est vrai qu'on a vu, il n'y a pas très longtemps, que certaines forêts avaient été abîmées par les incendies. Ils ont un rôle à jouer là-dedans aussi ?
Oui, oui. En fait, les éco-gardes s'inscrivent dans un dispositif qui est développé par la région, qui s'appelle la Garde du Feu. Et en fait, leur vraie appellation, c'est la Garde Régionale Forestière. Mmh. Derrière tous ces termes-là, que se cachent-ils ? Des jeunes entre 18 et 25 ans, souvent issus du territoire, qui ont pour mission, en fait deux missions, prévenir, surveiller, pour faire simple. Prévenir, on parle des incendies, mais je pense qu'on y reviendra. Donc prévenir tout comportement qui serait susceptible de déclencher un incendie, en effet, de ravager nos forêts.
Arrêter de jeter des mégots.
Par exemple, oui, mais ça, pour nous ça paraît évident quand on est méditerranéen, mais pour d'autres ça ne l'est pas, mais ce n'est pas forcément un acte de malveillance, mais bon, on en reparlera. Prévenir aussi, conseiller, c'est-à-dire les bons gestes en milieu naturel, tout simplement, quoi. Prévenir s'il y a un risque d'inondation dans le Touloirin, qu'on en parlait, il faut avertir. Les gens ne sont pas forcément au courant.
Ça monte à une vitesse incroyable.
L'orage peut se déclencher à 40 km, vous n'avez pas vu une goutte, pas un tonnerre, vous n'avez rien vu, vous avez une vague de presque un mètre qui surgit en quelques minutes. Donc prévenir ces risques-là, et puis surveiller. Surveiller tout départ de feu, surveiller... des comportements répréhensibles, et puis s'il y a besoin, déclencher d'autres formes de... Je ne trouve pas le mot immédiatement, mais d'autres formes de... qui viendraient calmer un petit peu certaines ardeurs. Quoi.
Pas de la répression, mais...
Oui, oui.
Il y a un moment, il faut agir.
Oui, mais c'est le dernier outil, ça. Bien sûr.
D'abord la prévention, et puis aussi être pédagogue pour que justement les visiteurs comprennent l'impact d'un petit mégot qui a l'air de rien du tout et de ce que ça peut faire. Alors je ne sais pas que l'incendie qui a eu lieu vers Baume de Venise, qui a détruit 250 hectares, quelle était la cause. Mais voilà, on voit que c'est parti très vite, que ça a détruit énormément en très peu de temps et que ça a eu des impacts sur l'environnement, psychologique.
C'est un incendie qui est assez particulier. D'après les informations, il serait naturel.
Okay.
Voilà. Mais c'est un incendie qui est particulier parce qu'il a deux aspects. 250 hectares, quasiment 220-230 hectares qui ont brûlé en quelques heures, attisés par un vent absolument particulier. Quoi. Enfin, c'est fou. Puis une topographie, c'est, même pour les services de secours, c'était assez inédit.
Un lieu qui était compliqué à... Voilà,
puis d'habitude, vous avez un cône de propagation du feu, là, il sautait partout.
Okay.
Voilà, donc les falaises, etc., le vent sûrement qui
puis propager.
Voilà. Quasiment que des propriétés privées. Accessoirement au milieu du vignoble. Donc c'est un peu la particularité aussi de ce massif-là qui fait son extrême beauté. Hein. Ce sont des falaises, des buissons, des ravins, des forêts, du vignoble, des oliviers, etc. Enfin, c'est beau parce que c'est presque la marqueterie et c'est assez unique. Hein. Voilà. Malheureusement, ça a brûlé. C'est un choc paysager, un choc environnemental, un choc pour les habitants aussi, hein, pour tous ceux qui aiment le Graveyron et qui aiment les dentelles de Montmirail. Voilà. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains, il y a eu des dégâts matériels. Bon, là, les éco-gardes, si vous voulez, nous, notre rôle, il n'est pas dans les secours de première urgence, ce n'est pas notre travail, ça. Les services, les pompiers, la DFCI, l'État, etc., s'en sont emparés, ils ont fait un boulot fantastique. Je pense qu'on peut les féliciter. Nous, on était plutôt en périphérie, sur les massifs qui étaient fermés, pour faire en sorte que les gens comprennent bien pourquoi ils étaient fermés. Mmh. Voilà, donc les éco-gardes étaient déployés à ce moment-là. Notre travail est maintenant plutôt dans une deuxième phase, celle de la reconstruction. Voilà. C'est-à-dire que même si les communes des dentelles de Montmirail, que sont Baume de Venise, Lafare, La Roque-Alric, Suzette, ne sont pas dans le parc, Il empêche que le feu a touché Saint-Hippolyte-le-Graveyron et le Barou en répercussion, qui sont, elles, dans le parc naturel régional. On peut pas rester les bras croisés en disant...
chez nous.
Oui, puis vous voyez, ce serait une logique trop administrative. Mmh. Au contraire, il faut l'agir de solidarité, il faut de l'entraide, il faut avancer. Quoi. Mmh. Donc c'est vrai qu'avec les communes, à leur demande, voilà, et puis avec l'accompagnement du département et de la région... le parc conduit une étude de restauration des terrains incendiés qui va être rendue en début d'année. Et tout ça, c'est rendu possible aussi parce que voilà, il y a une volonté des élus, une volonté politique forte de se dire on avance, on va dans la même direction et on est solidaires. Et je pense que ça a été un moment important. Mmh. Souvent, on réagit quand il y a des
crises. Quand il y a des catastrophes.
Ouais, quand il y a des catastrophes, on s'en rend compte voilà, qu'il faut avancer. Quoi.
Ça permet de, des fois, recréer du lien et justement se battre tous ensemble pour que... la suite soit plus belle. On va refaire une deuxième petite pause musicale et on continue à parler du parc naturel régional du Mont Ventoux juste après.
Just
écoutez l'émission Une femme, un homme, un territoire.
Troisième partie de notre émission dédiée au parc naturel régional du Mont Ventoux avec Ken Reyna, le directeur du parc. On a parlé du parc, comment ça se passait, on a parlé de la biodiversité, de différentes actualités, il y en a plein d'autres, je pense qu'on pourrait passer quelques heures ensemble pour parler de tout ça. Comment vous êtes structuré à l'intérieur du parc naturel régional? Vous avez une présidente des équipes, comment ça fonctionne?
Alors, c'est un syndicat mixte qui anime le parc. C'est-à-dire que c'est une forme de structure publique qui associe différents types de collectivités. Je vous ai parlé de la région, du département, des communes, des intercommunalités. Et la particularité, c'est que l'on a également associé les chambres consulaires, agriculture, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre de commerce et d'industrie, et trois associations que sont France Nature et Environnement, les Carnets du Ventoux et la Fédération départementale des chasseurs, pour représenter aussi trois domaines culturels, environnementaux et le domaine cynégétique, et les mettre autour de la table. Et toutes ces structures-là sont représentées par des élus qui siègent, et il y a une présidence qui pilote, qui décide, en collaboration avec ses collègues élus. C'est Mme Jacqueline Bouillat, qui est conseillère régionale, qui est élue également du territoire, native du territoire, qui est la présidente du parc. Voilà. Donc ça, c'est le volet plus décisionnel. Mm-hmm. Le vote des budgets, des attributions un peu plus politiques,
on va dire. On a vu que le budget était important, après, pour faire des actions.
Oui, il faut toujours un peu d'argent, ouais, ça quand c'est même. Sûr. Hein, oui. Mais pas que, c'est-à-dire que la particularité également d'un parc, c'est de s'ouvrir aux autres, on en parlait tout à l'heure. Et l'idée, c'est aussi, ça c'est une actualité brûlante, puisqu'on va déployer cela dès la fin du mois de janvier, c'est l'installation de commissions thématiques, c'est-à-dire des commissions qui vont parler de forêt, d'espace naturel, de biodiversité, de tourisme, d'agriculture, de paysage, etc. Un peu les grands sujets finalement de préservation, de développement, d'éducation, etc. Et ces grands sujets seront, associeront à travers ces commissions aussi les partenaires, des associations, des entreprises, des personnes ressources. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir brasser à la fois cette vision-là, on va dire la société civile, et la vision des élus. Voilà, et d'arriver à se donner les moyens pour atteindre le cap qu'on s'est donné. Voilà.
Créer du dialogue entre les différentes parties prenantes pour justement être peut-être plus efficace. Si on se met sur des thématiques, ça se focalise à chaque fois sur une thématique sur laquelle on est compétent. Et donc, ça permet d'avancer peut-être un petit peu plus vite.
Mais en fait, c'est vrai, se dire que sur cette thématique-là, on se donne dans le courant de l'année tant de temps de rencontres pour affiner les sujets, bien définir les priorités, qui fait quoi finalement, qui porte l'action, etc. Je pense que ce n'est jamais du temps perdu. C'est-à-dire que ça prend plus de temps que de faire tout seul. Mais à la fin, ce sont de belles opérations et de belles réussites.
Oui, puis vous parlez de mutualisation, c'est aussi important. Si chacun sait qui fait quoi, ça évite de peut-être faire des doublons et de perdre du temps de côté au lieu d'avancer ensemble.
Alors, doublonner, ça ne sert à rien, en effet. On n'est jamais efficace quand on doublonne. On perd du temps et de l'argent, c'est totalement inutile. Par contre, se rassembler pour essayer de faire mieux ensemble, c'est quand même vertueux.
Tout à fait. Vous nous parliez des communes tout à l'heure. J'ai vu qu'il y allait avoir un atlas de la biodiversité. Il y a 5 communes qui sont intégrées là-dedans. En quoi ça consiste?
Alors, un atlas de la biodiversité communale, c'est une démarche qui a été impulsée par l'Office français de la biodiversité. On a répondu à un appel à projet de l'OFB qui vient soutenir l'amélioration des connaissances sur la biodiversité. Pourquoi ce secteur-là? Parce qu'en fait, au travers de toutes les démarches qui sont en vigueur, la réserve de biosphère de l'UNESCO, mais aussi des procédures plus localisées, restreintes dans l'espace, hein, Natura 2000, etc., la connaissance de la biodiversité sur le massif du Ventoux, sur le Comtat-Venaissin, sur le plateau de Sceaux et sur le banc de Vaucluse, est quand même nettement plus développée que sur le bassin de Vaison-la-Romaine, c'est-à-dire des communes qui sont regroupées autour de Vaison-la-Romaine. Et il nous semblait important de renforcer les connaissances et la mobilisation de tous, les habitants, les grands, les petits, les élus, etc., sur cette connaissance-là et comment, finalement, on l'intègre un peu dans la pratique d'aménagement du territoire ou nos pratiques quotidiennes. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il y ait une animatrice qui puisse ben voilà, animer justement un peu la vie de ces atlas, en créant des temps de rencontre, en mobilisant les habitants.
Les écoles peut-être aussi.
Et bien évidemment les écoles. Voilà, puisqu'on a un gros programme éducatif depuis plusieurs années maintenant, qui touche les écoles, les collèges et les lycées volontaires. C'est un appel à projet, ils répondent. Et où l'on a une petite vingtaine d'intervenants qui sont soutenus, financés par le parc pour aller réaliser des interventions en milieu scolaire. Voilà.
Parfait. Alors, on était avec la maire de Caron dans la dernière émission le mois dernier. Et j'ai vu également qu'il se passait quelque chose autour du lac du Paty qui est maintenant classé espace naturel sensible.
Ah oui, oui, c'est, en effet. C'est un beau projet. Alors, j'ai mis du temps parce que c'est un projet qui me tient un peu à cœur. Parce que,
c'est ce que vous me disiez,
oui. Ah oui, si on peut au pitchou de Caron, quoi, comme on dit dans le jargon. Quoi. Je suis un peu un petit d'ici. Quoi. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un endroit où j'ai des souvenirs un peu particuliers. Quoi, là. Et cet espace-là, il est absolument magnifique. Il y a le lac qui est son élément central, mais il y a tout un patrimoine autour. Et la mairie de Caron s'est engagée, en effet, dans une opération ambitieuse qui vise à préserver et mieux accueillir les visiteurs. Il y a toute une série d'actions qui concourent à atteindre ces objectifs pour faire découvrir le patrimoine en pierre sèche qui était pour beaucoup insoupçonné dans ces forêts-là, pour préserver la biodiversité, voilà, pour faire en sorte que, je crois que je l'ai beaucoup dit, hein, que demain ce patrimoine soit toujours aussi beau, quoi, voilà, et qu'on le fasse connaître surtout et qu'on le fasse comprendre.
Comprendre à la fois aux locaux et aux personnes qui viendront nous rendre visite. On est quasiment à la fin de l'émission, ça va assez vite. J'avais une petite question. Si vous aviez un endroit à faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices d'RTVFM dans ce territoire du parc, ça serait lequel? Je sais que la question est dure.
Ah, je ne peux pas vous répondre. Ah non, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas vous répondre parce que j'en ai beaucoup trop. Mais et puis, je créerais des jaloux. Mais ceci étant, un coucher de soleil ou un lever de soleil au sommet du Ventoux, waouh!
Ah oui, voilà. Alors en été, il faut se lever un peu tôt, mais ça vaut le coup.
Oui, c'est exceptionnel.
Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres endroits, vous en avez parlé pendant l'émission. Justement, si on a envie d'être informé de tout ce qui se passe, parce qu'on n'a voilà, pas eu le temps de parler de tout, mais il y a des ateliers, il y a des conférences, il se passe énormément de choses sur le territoire. Comment on fait pour être tenu informé de tout ça?
Alors, bah, les voies de communication classiques, le site internet parcduventoux.fr. Et puis sur les réseaux sociaux, on est présent assez actif sur Facebook. Voilà, faut chercher le parc naturel régional du Mont Ventoux et il y a toutes nos grandes actualités, tous les grands rendez-vous. Voilà, il faut pas hésiter. Et puis sinon, nous appeler au 04 90 63 22 74.
Ah, voilà. Mais vous le connaissez par cœur, bravo. Et puis il y a une lettre d'information aussi, je crois, tous les mois ou tous les trimestres.
Oui, une lettre d'info régulière, oui, qui permet de faire le point et de projeter aussi sur les grandes dates à venir.
Parce que c'est aussi important, en dehors des ateliers, des choses qui sont accessibles au grand public, d'être au courant de tout ce qui se passe, tous les projets dont on a parlé là, qui vont se faire cette année et les années suivantes, puisque c'est un travail sur le long terme.
Ah oui, on est parti là pour... les parcs, ça vit 15 ans, mais on est parti. Le Ventoux était là avant nous, il sera là après nous.
Ah bah j'espère bien, ouais. On lui souhaite. Eh bien merci beaucoup Monsieur Reyna de nous avoir fait découvrir un peu plus en détail le parc naturel du Mont Ventoux. Je pense qu'il y a encore 1000 choses à découvrir, mais je laisse les auditeurs le faire. Merci à Bruno pour la technique et on se retrouve le mois prochain pour partir à la rencontre des femmes et des hommes qui font notre territoire.